la stratégie qu'on emploie pour aller chercher des clients, en fait, elle est relativement simple et bien connue. Ça s'appelle du land and expand. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller chercher des clients qui sont pertinents pour notre offre, qu'il y ait un fit entre les deux. Puis après ça, de travailler très, très fort sur la relation.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 128e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. La plupart d'entre nous connaissons l'industrie musicale avec les artistes qu'on écoute quotidiennement sur des applications comme iTunes ou encore Spotify. Maintenant, comment ces artistes ont-ils réussi à s'intégrer dans nos vies? Comment ces chansons sont-elles devenues indispensables dans votre routine? Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir sur Hypercroissance un entrepreneur ayant construit une entreprise tout à fait exceptionnelle dans une industrie assez fascinante. Gabriel L'Espérance, cofondateur de l'organisation Wavo, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'évolution, et le mot est faible, que son entreprise a vécu depuis sa fondation en 2011. En effet, Wavo, qui se positionne tout autant comme un logiciel d'analytique qu'une agence de marketing pour l'industrie musicale, a connu plusieurs pivots afin de finalement trouver la bonne recette. Et cette même recette les a positionnés comme 64e entreprise en plus forte croissance au Canada en 2021. Sans plus attendre, ma discussion avec Gabriel L'Espérance. Gabriel L'Espérance, vous êtes le cofondateur de l'entreprise montréalaise Wavo, une organisation technologique et également de prestations de services qui se spécialise dans l'industrie musicale. Fondée en 2011, Wavo a fait partie cette année des entreprises en plus forte accélération au Canada, avec des revenus en croissance de 904% au cours des trois dernières années. Ce sera d'ailleurs un des sujets de discussion lors de notre entretien. Gabriel L'Espérance, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Salut Antoine, merci de l'invitation. Ça fait plaisir d'être là.
Et Gabriel, avant de parler de l'histoire de Wavo, pourrais-tu expliquer à notre auditoire aujourd'hui ce que fait votre entreprise et comment vous vous distinguez dans l'industrie musicale?
Clairement. Donc, ce que Wavo fait, c'est de rendre le marketing en musique prédictif et scalable. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leverage dans le fond nos super bonnes relations avec les grands labels, les gros de l'industrie, donc on pensait à Warner Music, puis à l'accès que ça nous donne d'être proche de ces gens-là, comme par exemple la donnée privée, la connexion directe avec nos clients, bref, le fait qu'on peut travailler sur tous les types de projets qu'ils ont, puis de leverager un peu notre expertise dans le domaine de la technologie et notre spécialisation pour la musique pour leur permettre, dans le fond, justement, d'avoir des meilleurs résultats marketing et qu'ils puissent, dans le fond, scaler avec notre solution. Donc, nos solutions, ici, je parle de service marketing global pour la musique, c'est-à-dire planifier, exécuter, mesurer les résultats des campagnes, et aussi, au niveau du software, des analytiques de données en marketing spécialisé pour la musique. C'est-à-dire, ici, l'idée, c'est de réunir dans une seule solution les données d'affaires et les données marketing qui sont spécifiques à la musique et leur permettent d'avoir une vision globale de ce qui se passe pour leurs artistes, pour leurs investissements. Donc, c'est ce que fait Wavo.
Puis, j'écoutais une présentation que vous aviez faite à Dragon's Den il y a quelques années de ça. Il y avait quelqu'un parmi les dragons qui disait « C'est vraiment intéressant votre approche parce que dans l'industrie musicale, les gens adorent faire le produit, adorent faire le contenu, mais souvent, ils sont pas tellement bons pour le publiciser, pour en faire la promotion. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs comme vous dans l'industrie ou vous êtes un des seuls à être aussi spécialisé sur le marketing pour l'industrie musicale? »
C'est une excellente question. Je dirais que le marketing en musique, c'est quelque chose qui est un peu niché. Donc, nous, on le voit comme une verticale. Donc, oui, il y a quelques, on n'est pas la seule, si on veut, firme ou agence qui s'occupe de ces problèmes-là. Mais je dirais que nous sommes l'une des seules firmes, sinon la seule firme qui allie vraiment technologie et passion pour la musique de cette façon-là. Traditionnellement, les compétiteurs vont soit être, par exemple, des agences plus à l'horizontale, donc ils vont aller chercher un peu de tout, ou on va aller parler peut-être plus en digital enablement pour ces agences-là, ou bien ça va être des agences plus traditionnelles qui sont spécialisées dans la musique. Donc nous, on marie un peu les deux, puis c'est en fait un peu lié à notre historique en fait en tech et en musique.
On va en parler d'ailleurs de cet historique parce qu'il a beaucoup changé à travers les années, Gabriel. On peut le dire maintenant, vous êtes une entreprise technologique, vous faites également de la prestation de services, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que quand vous avez fondé l'entreprise en 2011, vous aviez une vision un petit peu différente. Vous étiez davantage au départ une place de marché qui allait mettre en relation certaines personnes, ou plutôt on allait prendre des listes musicales favorites de certaines personnes et on allait les partager au grand public. Peux-tu nous dire un petit peu comment s'est déroulée la genèse, la création de cette entreprise-là et également l'évolution? Parce que c'est assez fascinant ce qui vous est arrivé.
Oui, il y a eu beaucoup de points d'évolution par rapport à ça. Puis, dans le fond, si on veut parler des premières années, ce à quoi ça ressemble. Pour commencer, comme tu l'as dit, Antoine, on a fondé Weibo il y a 10 ans. Il faut rappeler ce à quoi ressemblait Montréal à ce moment-là. Ça fait loin maintenant, surtout dans ces années 2022, mais dans ce temps-là, les startups commençaient à peine à faire parler d'eux. Founder Fuel, on était à sa première cohorte. Le Startup Fest, si je me souviens bien, on était à sa première fois. Donc, tout l'écosystème montréalais était comme en pleine effervescence. Tout le monde était comme bondé d'enthousiasme puis super excité comme de tout le potentiel qu'il y avait là. Puis pour moi, le début de Weibo va toujours rester comme vraiment ancré là-dedans. Vraiment ancré dans cette idée d'effervescence, mais aussi avec les réalités d'entrepreneuriat, c'est-à-dire des semaines de plus que 60 heures, mais en même temps l'excitation de monter une nouvelle équipe, des challenges de faire rouler une start-up pré-revenu, comme à ce moment-là, à notre début vingtaine, pour mon cofondateur et moi, en ayant des fins de runway qui s'en viennent de plus en plus proches. En même temps, faire partie de cet écosystème-là, en fait, c'était pas juste le voir de l'extérieur, mais le voir de l'intérieur en travaillant de notre menace, qui elle-même était en fait une start-up à ce moment-là. Donc, c'est vraiment là où on a commencé. C'est vraiment dans cette situation-là, les premiers hackathons, Node.js à Montréal, auxquels dont certains ont organisé, auxquels d'autres on a participé. C'est vraiment ça le contexte de fondation de Weibo, ancré un peu comme tu l'as dit, dans une passion pour la musique, pour faire découvrir la musique. Fait intéressant, par exemple, c'est pas tout à fait là-dessus qu'on a commencé. La musique avant Founder Fuel, c'était davantage, je dirais, c'était moins focus, par exemple, à ce moment-là.
Puis parlons-en un peu de Founder Fuel, parce que ils ont incubé, on va dire ça comme ça, des entreprises assez formidables à travers les années. J'ai vu, c'est ça, que vous avez fait partie de, je crois, la toute première cohorte. Les Weibo, à ce moment-là, ce n'était pas ce que c'était aujourd'hui. Pas seulement dans ses revenus, pas seulement dans sa croissance, mais dans son produit. Quelles ont été les révélations après Founder Fuel? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes rendu compte que peut-être vous deviez changer un petit peu votre approche, peut-être vous deviez changer votre offre de service ou encore votre modèle d'affaires?
C'est pendant Founder Fuel que ça a changé. Chaque fois que je pense à Founder Fuel, j'ai deux, ça va être très intéressant quand même. Il y a tout le temps une chose pour son contraire quand il y a un souvenir. Puis il y a une chose que quand je me souviens de Founder Fuel, il y a deux mots qui me viennent en tête. Il y a un flou total parce que à ce moment-là, c'était 13 semaines intenses. On parle de bootcamp peut-être, mais on parle d'accélérateur, donc on accélère, on sent vraiment cette accélération-là. Donc on voit, c'est un peu comme un vortex de travail, d'idées qui changent tout le temps. Donc, un peu un flou. Mais l'autre partie, c'est l'idée du focus. Puis, pour moi, c'est vraiment ça que Founder Fuel est allé chercher. Donc, quand on est entré dans Founder Fuel, notre idée, comme tu l'as dit, Antoine, elle était radicalement moins précise. Originellement, dans le fond, Weibo, ce qu'on avait décidé de bâtir, c'était davantage une plateforme qui permettait de visionner, sauvegarder les différents contenus de multimédia qui proviennent de nos réseaux sociaux. Une sorte de librairie sociale sans le bruit social. Puis, à travers Founder Fuel, à travers le mentorat qu'on a eu, à force de vouloir parler de cette idée-là, à force de mettre cette idée-là en vie, parce qu'il y a ça aussi qu'on fait ou qu'on a fait durant Founder Fuel. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé à Founder Fuel, C'est la première cohorte, donc on ne peut se permettre d'arriver avec une idée, une ébauche. Pas beaucoup plus qu'un design animé dans HTML qui bougeait. À ce moment-là, Thunderfield, c'était peu connu, mais il fallait être proche justement de ces milieux-là pour savoir que ça existait. On a pu rentrer avec ça. Et à force de travailler sur cette idée, est venu un peu cette sorte de compréhension que il y a des choses qui marchent, puis il y a des choses qui marchent pas. Puis ça, c'est un thème qui est super récurrent à travers, je crois, les vendeurs avec un entrepreneur à laquelle à travers ils passent. C'est-à-dire que on a bien vu que nos applications, par exemple, à ce moment-là, cette espèce de librairie multimédia, c'était bien. Mais ce qu'on a vu davantage, c'était ce qui marchait dans cette librairie musicale-là, d'où la valeur était créée. C'était tout ce focus-là qu'on pouvait aller chercher sur la musique. C'est-à-dire qu'en allant chercher le focus sur la musique, il y avait davantage de valeur qui sortait. Puis c'est comme ça, dans le fond, que notre idée, ou la première idée après l'espèce de vraie genèse est sortie. C'est-à-dire de bâtir un certain réseau social de musique où les gens peuvent découvrir les artistes. Donc, c'est un peu ça que pour nous ressemblait Thunderfield, c'est-à-dire un vortex de feedback, de fundraising, de positionnement, de se faire poser des questions difficiles à laquelle on réalise qu'il y a des contradictions dans notre idée. Puis on est pur. Puis on est sorti de ça avec une idée qui nous a permis de se lancer davantage plus loin parce qu'on a réussi à faire une levée de fonds après Thunderfield, puis qui nous a permis pendant plusieurs années de justement travailler à cette idée qu'on avait originalement de réseau social musical pour la musique.
Puis c'est en 2015, je crois bien, que tranquillement, cette plateforme technologique-là a vu le jour, que vous avez commencé à commercialiser davantage. Je crois même que je l'ai dit un petit peu plus tôt, vous avez fait une apparition à Dragon's Den pour aller chercher des fonds, pour faire valoir l'idée, avec une valorisation qui, j'invite les gens à aller voir la vidéo, il est sur YouTube, qui a fait peur un petit peu au dragon, mais qui au final valait clairement ce que vous mettiez sur la table, parce que vous aviez déjà une croissance à ce moment-là, je crois, de 40% mois après mois. On dirait que très rapidement, en 2015, on va dire très rapidement, ça faisait quand même 4 ans que vous étiez en train d'itérer autour du produit, il y a un certain, pardonnez-moi l'anglicisme, un product market fit ici. Et là, automatiquement, vous avez été capable de trouver la bonne clientèle qui était intéressée à votre produit.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, je pense, pour ce pivot-là, en fait, il y a eu deux pivots, je dirais. Donc, si on repense où on était au Evo à ce moment-là, pour vraiment comprendre ce qui est intéressant, faut voir le côté existentiel de la décision que représente un pivot, puis comment ça se change du point de vue de l'entrepreneur, mais aussi du point de vue justement de toute l'équipe qui est là. Donc en 2015, au moment où on a un peu pivoté, on était à notre troisième, quatrième année d'itération sur le projet de réseau social de musique. On approchait d'une fin de runway. À cette époque, notre base utilisateur, donc ça c'est avant le vidéo de Dragon's Den, parce que la vidéo de Dragon's Den représente un après, en fait, représente un moment où on était capable de générer des revenus. Si je prends peut-être un petit pas de recul ici, c'est qu'il faut savoir que dans le milieu des startups, quand on part une entreprise qui se veut être un réseau social, on va pas chercher des revenus au départ. Ce qu'on nous dit, c'est faut aller chercher la croissance, les utilisateurs, faut aller chercher une viralité, puis il faut y aller avec différents mécanismes, la gamification. Après, c'est sûr que si on est capable de lever beaucoup de fonds, ce qui peut être plus ou moins difficile dépendamment d'où on se situe sur la planète, donc on pense peut-être plus à Silicon Valley, etc., on peut aller chercher évidemment une acquisition qui est payante des utilisateurs. C'était pas notre cas, mais le but, c'était d'atteindre beaucoup, beaucoup d'usages mensuels par les gens qui utilisaient notre application. Puis, donc, on était en 2015, c'est la troisième, quatrième année, on a fait plusieurs versions de notre site web. À ce moment-là, notre base d'utilisateurs consistait d'environ 300 000 utilisateurs par mois, ce qui est un nombre super appréciable pour une jeune startup, mais qui est malheureusement vraiment en bas de ce qui est nécessaire pour le faire une levée de fonds pour un réseau social. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi mentionner que dans cet écosystème-là de musique sociale, il y a aussi des gros joueurs qui commençaient à entrer. Si on pense à Google Play Music, on pense à Spotify, je me pense pas qu'il y avait Apple Music à ce moment-là, qui sont arrivés plus tard, mais disons que l'espace d'idées commençait à être un peu crowded, pour dire un anglicisme. Puis, il y avait aussi, bon, Pinterest, bon, etc. À ce moment-là, il y avait beaucoup de choses. Donc, nous, on se retrouvait, dans le fond, devant cette idée que, ben, on avait beaucoup de travail, on avait du bon travail, on avait atteint 300 000 utilisateurs actifs, mensuellement, mais que il y avait peu de chances qu'on se rende au million d'utilisateurs par mois que dont on avait besoin pour lever de l'argent. Donc, c'est un peu l'idée existentielle, puis ça revient à la question que j'ai soulevée tout à l'heure, c'est il y a tout le temps deux questions qu'on se pose, puis c'est la même chose qui s'est passée durant Founder Fuel, c'est-à-dire il y a deux questions. Donc, c'est deux choses. Tu vas parler à tes partenaires, tu dis, ouais, j'ai dit deux choses. Number one, ça marche pas. Puis numéro deux, ben, la question qui suit ce qui marche pas, c'est qu'on se demande après qu'est-ce qui marche. Puis c'est la même chose qu'on a fait pendant Founder Fuel, c'est-à-dire que c'est quoi les symptômes, qu'est-ce qui marche pas, puis est-ce qu'on a une cause, sinon est-ce qu'on est capable, par exemple, d'aller peut-être chercher quelque chose qui exempte de symptômes ou une vision qui de nous-mêmes qui représente. Puis si on regarde, c'est pas juste Webo. On peut parler, par exemple, d'autres startups, juste pour les mentionner. On parlait de MailChimp dernièrement. MailChimp, c'est la même chose qui est arrivée. Un peu à l'inverse de Webo, mais ils ont eu des difficultés. À un moment donné, ils se sont dit, notre business marche pas. Eux, c'est-à-dire que leur business qui fonctionnait pas, c'était leur business de service. Et ils se sont dit, qu'est-ce qui fonctionne? Ils ont regardé. Ils ont dit, ah, wow, notre application. Pour Webo, ça a été un peu l'inverse. C'est-à-dire que, à ce moment-là, encore, 2015, 3-4 années d'itération, Webo consistait en ceci. On avait une application web qui représentait le cœur de notre réseau social. On avait une application mobile qu'on venait de lancer, parce qu'il faut se rappeler aussi que c'était l'effervescence des applications mobiles, avec des succès viraux comme Flappy Bird, etc. Puis tout le mobile, tout le monde, ça a eu une belle accélération. Donc, on avait notre application mobile. Puis, on avait aussi une application qui nous permettait d'organiser des compétitions de mix ou de remix pour les différents labels. De façon intéressante, cette application-là, qui était là était pour les compétitions, elle était là pour nous permettre d'aller chercher une croissance. C'est-à-dire qu'en l'absence de dollars marketing à dépenser pour aller acquérir des utilisateurs, comme on fait pour acquérir des utilisateurs, on fait des applications virales. Une application virale qu'on a établie, on a établi plus qu'une, mais une qui est restée, c'était celle des compétitions. C'est-à-dire qu'on utilisait le réseau social de musique pour rouler des compétitions, organiser des compétitions et permettre aux artistes de se faire connaître, non pas juste de leurs fans ou des fans des autres artistes qui venaient dans la même compétition, mais également des labels. Parce que le but de la compétition était souvent de se faire release, donc d'avoir un contrat avec le label, de passer au stade suivant pour l'artiste. Puis, de façon un peu ironique, cette application-là qui est un peu venue au deuxième degré, en fait, c'était ce qui marchait. On s'est rendu compte que quand on a cette discussion-là, ça marche pas, qu'est-ce qui marche? Ben, que peut-être ce qui fonctionnait le plus n'était pas notre ambition sociale, notre ambition d'être l'endroit où les gens découvrent la musique, mais plutôt qu'on était la solution pour les artistes et les labels pour se faire connaître et mettre en marché leurs produits. C'est-à-dire que les labels venaient aussi là parce que ça leur permettait d'aller rejoindre une audience également, d'aller grossir. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à établir une nouvelle stratégie qui était celle de permettre aux artistes et aux labels de se faire connaître grâce à nos services, grâce à notre plateforme. Puis c'est là que ça nous mène directement aux vidéos de Dragon's Den. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, ça fait un moment que je l'ai écouté, je dois avouer. Donc, j'y vais de mémoire, je ne l'ai pas révisé avant le podcast, donc il y a peut-être un peu de synthèse qui s'applique puis que c'est pas tout à fait ça, mais à ce moment-là, si je me souviens bien, le réseau social existe encore, mais on avait notre service qui était par-dessus la plateforme qui permettait aux artistes de payer pour, dans le fond, se faire connaître sur un réseau publicitaire qu'on avait monté en collaboration avec les gros blogs de ce temps. Donc, si ça nous ramène au temps de la blogosphère, parce que c'était donc important à ce moment-là, puis c'était effervescent. On parle de Hype Machine, on parle Disco Bell pour ceux qui aimaient l'électro, etc., mais j'en passe. Et ces gens-là, c'était des partenaires d'affaires qu'on avait aussi. Donc, on avait décidé d'utiliser cette stratégie pour permettre aux artistes et aux labels de se faire connaître. Et à travers ça, on s'est dit, ben, vous savez quoi, les blogs et tout, nous, on peut vous donner un revenu. On va vous permettre de faire du revenu avec de la pub, mais qui est essentiellement pas vraiment de la pub. C'est-à-dire que c'est pas un produit que je dirais commercial, usuel, ça peut être une table, etc. C'est pas un produit de consommation physique qu'on peut le vendre normalement quand on vend sur pub. Ça va être un produit de consommation culturelle qui est en lien avec votre éditorial et qui fonctionne. Donc, ça a été justement qu'est-ce qui a supporté le pivot en 2015 à ce niveau-là. Puis, qui nous a amené vraiment un peu vers ça, c'était le Wavo 2.0. Par exemple, je dirais que maintenant, on est rendu au Wavo 3.0. C'est-à-dire que en fait, la même chose s'est passée plus tard, en fait. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Et on a certainement atteint. Puis des fois, c'est juste ça marche pas parce qu'on croit trop vite pour qu'est-ce qu'on vend. C'est-à-dire que à un moment donné, on s'est rendu compte que les artistes aimaient vraiment beaucoup se faire connaître. Mais que les labels, en fait, avaient le même problème. Et la demande était telle que rapidement, notre inventaire de publicité sur ce réseau-là s'est mis à plafonner, mais on a atteint un plafond à ce niveau-là. C'est-à-dire que il a fallu qu'on ait d'autres partnerships, donc aller chercher d'autres avenues pour aller chercher d'autres artistes. Et c'est comme ça, dans le fond, qu'on est devenu un peu à la version Wavo 3.0, où le focus est davantage sur les labels et leurs artistes et comment on peut aller chercher un amalgame de stratégies et d'analytique de données marketing pour justement leur permettre de se faire connaître davantage et, bon, évidemment, de scaler leurs investissements.
Je suis curieux, Gabriel. Excessivement intéressant ce que tu viens de mentionner, les pivots un après l'autre et qui, bon, ultimement, on s'entend, on ne pivote pas pour pivoter. On voit une opportunité de marché qu'on veut aller saisir, bien entendu. Et là, aujourd'hui, vous avez cette agence, littéralement, d'experts marketing qui est capable d'aider des labels musicaux avec la promotion de leurs artistes, mais vous avez également une plateforme technologique. La question que j'ai pour toi ici est la suivante. Est-ce que les deux sont intimement liés ou tu peux avoir, disons, un label qui vient et qui dit « Je veux utiliser votre plateforme pour faire connaître mes artistes, mais je veux gérer cette partie publicitaire-là à l'interne ou avec d'autres partenaires. » Est-ce qu'un peut venir sans l'autre?
C'est vraiment une question pertinente, Antoine, parce que ici, on parle d'espèce de dichotomie entre services et produits. Et certainement, il y a de nos clients qui préfèrent ou veulent, ou des fois, ils ont aussi des obligations de le faire à l'interne. Souvent, en ce moment-ci, la forme que ça prend, le service de media planning, donc de créer des plans médias, et la technologie qui est rattachée, c'est quelque chose qui est interne à Wavo. Donc, c'est très lié, dans le fond, à notre service qu'on a réussi à développer et qu'on développe un peu avec un modèle de AI agency. C'est-à-dire que on itère, on a nos processus et on les augmente avec la technologie. Ceci étant dit, ce qu'on va offrir aux agences internes ou aux clients qui veulent faire ça à l'interne, c'est un peu notre expertise d'utiliser nos produits d'analytique de données pour pouvoir organiser et visualiser leur campagne. Ce qui est un avantage pour eux, parce que souvent, c'est sûr que le côté media planning, souvent, la recette, entre guillemets, change de client en client. Après, je ne mentirais pas qu'on est définitivement, ou plutôt l'idée d'offrir peut-être une des applications de media planning, ce sont des questions qu'on se pose activement. C'est-à-dire que ça représente toujours des opportunités, ça représente toujours un nouveau produit qui peut permettre d'aller chercher un marché plus grand. Ceci étant dit, en ce moment, la demande, elle est davantage pour les agences internes qui ont leur façon de faire, de connecter toutes ces données-là. Ce qui est quand même relativement compliqué, qui demande aussi, malgré l'innovation qu'il y a eu dans l'ingénierie de données, une certaine maintenance, une certaine expertise dans les disons, à établir ces systèmes-là. Donc oui, on a un service qui est qu'on pourrait appeler self-serve ou white label, qui est utilisé par les plus gros labels dans le monde ou certains des plus gros labels dans le monde à l'interne pour analyser leurs données. Et nous, en fait, c'est là où le côté service est très, très intéressant pour notre client. C'est-à-dire que en connectant leurs données, nous aussi, on peut arriver. Ils peuvent aller aussi chercher le côté service de façon un peu plus, peut-être à la carte ou ponctuelle pour aller davantage plus loin. Ici, on va aller parler, par exemple, d'expérience machine learning. Ça peut être aussi des rapports spécifiques qui ont besoin d'aller chercher, qui sont en dehors des paramètres normaux qu'on va aller chercher avec notre plateforme. Donc, c'est un peu comment le côté service, le côté produit représente deux vases communicants.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissement publicitaire Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours. Est-ce que c'est deux entités distinctes? Dans le sens, présentement, vous représentez Wevo, mais au niveau administratif, est-ce que vous avez décidé de se dire, on fait deux Inc. avec ça parce que définitivement, le volet de l'expertise qu'on a avec nos gens à l'interne, c'est une entité, c'est peut-être même une agence à part entière. Et la plateforme technologique, ben, ultimement, c'est une autre entité. Un peut être client de l'autre, bien entendu. Mais est-ce que vous avez pris une décision peut-être de séparer les entités pour peut-être ultimement une protection d'actifs?
C'est une excellente question. C'est définitivement quelque chose qui représente beaucoup de potentiel pour nous. Pour le moment, c'est pas le cas, mais définitivement, je pourrais pas dire que c'est pas non plus une question qu'on se pose pas. C'est-à-dire que ça reste toujours dans cette espèce d'idée d'une certaine spirale où on se pose tout le temps les questions qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis je pense que définitivement c'est une stratégie qui peut avoir de la valeur.
Intéressant. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette croissance-là. On le dit plus tôt, dans les trois dernières années, je pense que c'est 904% que vous avez eu. Tu nous as parlé beaucoup du questionnement sur comment améliorer le produit, comment pivoter l'organisation. Mais ultimement, pendant ce temps-là, parallèlement à ces questions que vous êtes posées, vous avez été capable de prendre des parts de marché. Vous avez été capable de le faire et vous l'avez fait de manière agressive. Corrige-moi si je me trompe, je pense que vous avez au-dessus d'une centaine d'employés présentement qui travaillent pour vous. Comment tout ça s'est fait, cet afflux de clientèle-là qui est venu à vous?
La stratégie qu'on emploie pour aller chercher des clients, en fait, elle est relativement simple et bien connue. Ça s'appelle du land and expand. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller chercher des clients qu'on juge être des clients qui sont pertinents pour notre offre. Qu'il y ait un fit entre les deux. Puis après ça, de travailler très, très fort sur la relation. Cette croissance-là, elle est extrêmement attribuable au travail exemplaire de notre équipe de marketing service. C'est, je dirais même, notre équipe, si on veut, de vente. Pour nous, un peu, c'est un peu connecter les deux parce que, en fait, l'industrie de la musique, on parle d'une industrie où c'est une verticale où il y a quelques-uns très gros joueurs. Évidemment, il y a plein de sous-labels, mais c'est une industrie où peut-être moins d'une dizaine de gros labels. Donc, c'est très important de travailler sur ces relations-là. Et nous, la stratégie qu'on va chercher, c'est une stratégie justement qui s'appelle Land and Expand, que mon partenaire d'affaires, Connor Clark, a amené de l'avant et qui a très bien servi pour la croissance de notre entreprise. C'est-à-dire que on travaille avec le client, on s'assure de lui offrir le meilleur service et on s'attelle à ce que son usage grandisse avec le temps parce que on leur offre de meilleurs et meilleurs services. Et à travers ça, on va créer un certain avantage compétitif qui nous permet, à travers le network effect, de garder nos parts de marché. C'est vraiment ça qu'on est allé chercher. C'est-à-dire que le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il faut aller chercher les clients. Il faut savoir leur donner des services qui leur donnent de la valeur. Et il faut aller étendre l'usage de ces services-là à travers leur organisation. Et à force de créer ces connexions-là, c'est comme ça qu'on a pu grossir comme on a grossi. La technologie a toujours été centrale chez Wevo. On est parti comme entreprise de tech, mais on a su avoir le dynamisme d'embrasser la nécessité service et aussi cette connexion que nous avions avec les gens de la musique. L'idée, en fait, c'est que, oui, on offre des bons services, mais on vient aussi du monde de la musique. Weibo a quand même commencé comme un réseau social pour la musique. Les gens qui travaillent pour Weibo, pendant très longtemps, sortaient directement de l'industrie de la musique ou du milieu de la musique. On va chercher des gens qui sont des musiciens, des agents d'artistes, des gens qui peuvent être DJ parfois. Et cette culture, la culture de la musique, ça a toujours été une culture, ça a été la culture de Weibo. Donc, quand si je parle d'agents d'artistes, je parle de gens qui ont eu deux jobs, qui travaillaient pour Weibo puis qui avaient été agents d'artistes, que même qu'il y en a encore, qui ont encore des artistes, il y en a qui sont encore DJ. Puis, c'est, donc, il n'y a pas vraiment de secret dans le sens qu'on était très proches culturellement. Nous avions les services à leur offrir et l'expertise technologique. Et on a connecté. Et c'est ça qui nous a permis de croître aussi rapidement.
Je trouve tellement que c'est une belle approche que vous avez eue de greffer le volet service. Des fois, on peut avoir une vision de se dire c'est peut-être plus difficile à faire croître de la prestation de service. C'est vrai. J'imagine que de la technologie, ça peut aller plus vite. C'est davantage, pardonnez-moi l'anglicisme, scalable d'avoir une entreprise tech qui va prendre plus de parts de marché. Mais il y a tellement de plus en plus de valeurs sur des cellules grises qui comprennent un produit en particulier, parce que c'est pas vrai que tu peux mettre n'importe quel produit entre les mains de n'importe qui et espérer que ces gens-là automatiquement vont être capables de le comprendre. Je pense que les deux, de mixer cet aspect technologique-là et cet aspect expertise que vous bâtissez à l'interne, c'est vraiment un cocktail explosif. Là, c'est ce que les gens recherchent.
Définitivement, c'est un bon succès avec nos clients. Puis je pense qu'on brasse. Je l'ai dit au début du podcast, et puis comme je suis un peu comme un broken record, mais cette idée de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, cette espèce de remise en question de c'est ça être entrepreneur. C'est ça. C'est pour moi, je crois que si ça avait été autre chose que le service qui aurait fonctionné, on aurait pu graviter à aller le chercher. Ou peut-être qu'il y avait d'autres choses qui fonctionnaient, mais on a vu quelque chose qui fonctionnait, on a gravité vers le service. Je pense que justement, c'est ça l'essence d'être entrepreneur. Au même titre qu'un parent doit à un moment accepter qu'il ne sait pas ou qu'il ne contrôle pas ce que son enfant en guillemets va devenir. C'est la même chose qu'un entrepreneur. Faut savoir voir l'entreprise comme étant externe et savoir voir les signes qui nous disent vers où aller. Pour nous, c'était vraiment le service. Puis de façon rétroactive, maintenant je le connecte avec notre culture, notre service. Puis comme tu le dis bien, Antoine, les gens ont besoin de ça. Dans l'industrie de la musique, ils apprécient beaucoup, évidemment, cette espèce de service aussi clé en main où on va aller, tu sais, get the job done puis aller chercher les résultats dont ils ont besoin. Avec la technologie.
Intéressant. C'est quoi le futur de Weibo? Qu'est-ce qui vous attend? Est-ce qu'il y a un prochain pivot à l'horizon?
C'est intéressant parce que si on parle ou si on pense à chaque pivot qu'on a fait, est-ce qu'on sait que c'est un market fit ou non? Puis moi, en tant qu'entrepreneur, c'est ça que je suis toujours confiant. C'est-à-dire que je peux clairement être optimiste pour se lancer en affaires. De notre côté, ben tu sais, on est toujours confronté à ce côté un peu en guillemets traumatique ou au vide qui fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Du moins qu'on est toujours proche d'une remise en question ou que peut-être le prochain step va être une remise en question. Donc là, tu avais raison, t'sais, Weibo, on est rendu à plus que 100 employés à travers plusieurs continents, plusieurs fuseaux horaires, autant de pays. Puis on termine notre année record. Fait que à quoi ressemblent les années qui s'en viennent pour Weibo? Ben, pour moi, je pense que c'est continuer à savoir se positionner pour continuer de rentabiliser nos avantages puis le dynamisme de notre équipe. Puis en sachant, surtout avec la croissance, canaliser nos efforts pour garder ce même focus malgré notre taille qui est grandissante. Puis c'est toujours un défi parce que au début, on pense pas à la taille, on pense pas à l'entreprise parce que nous sommes l'entreprise. Vous êtes deux cofondateurs, trois cofondateurs, etc. On tombe à l'étape d'équipe. C'est pas trop pire quand on peut crier à travers la pièce pour dire à quelqu'un oui, vas-y ou non, vas-y pas, ou qu'on peut avoir une discussion à tout hasard en plein milieu d'une journée parce qu'on est dans le même building, dans le même bureau sur la vision. Je pense que justement, Weibo il focus là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a d'autres pivots dans le futur? Moi, je pense qu'il pourrait en avoir dans le sens que il y a des choses, il y a toujours des. C'est ça l'idée, l'espèce de balance de confiance d'entrepreneur que j'ai mentionné. Il y a toujours des choses qui fonctionnent. Il y a des choses fonctionne pas. Puis la réalité de l'entrepreneur, c'est d'avoir une confiance pour pouvoir gérer ce qui fonctionne pas. Donc, on va continuer, je pense, de faire ça. Puis de faire les bonnes décisions, quitte à devoir se repenser soi-même afin de pouvoir atteindre le prochain niveau. Parce que c'est ça qu'on a fait chez Wave. Puis ça me fait toujours penser à une citation de Herman Hesse qui dit que on tourne pas en rond, pour le paraphraser, mais on va vers le haut en spirale. Puis en spirale qui un peu on tourne, c'est pas tourner autour du pot, c'est bien pas sûr. Revenir. C'est un peu comme une idée de justement de trouver ce qui fonctionne, d'enlever ce qui fonctionne pas, puis de recommencer. Et ça, juste pour continuer la croissance. Parce que souvent, même si on parle des grosses entreprises qui vont aller chercher, par exemple, un market fit, puis qu'on va juste grossir, en fait, c'est la version distillée où c'est vide du vide, justement. Il n'y a pas cette notion de qu'à l'interne, c'est un gros, peut-être, bordel. Donc, je suis pas en train de te dire que c'est un gros bordel chez Wave à l'interne, mais ce que je veux dire, c'est que la croissance demande une conscience que ce qui marchait avant va peut-être pas marcher au prochain step, ben puis que c'est correct. Puis parce que c'est vraiment important d'y aller justement étape par étape comme ceci, puis un peu d'y aller un peu comme chaque étape est un peu comme une marche d'escalier pour aller vers la prochaine étape, pour continuer justement à monter dans cette spirale.
Exact. Et il y avait le CEO de Infusionsoft qui avait dit un truc totalement fantastique. Il disait que what got you here, what won't get you there. Donc, ultimement, à chaque pilier de croissance spécifique, donc lui, il disait, c'était à chaque fois que tu triplais un petit peu l'entreprise, tu dois tout remettre à terre et recommencer et repenser fondamentalement ses processus, sa logistique, son offre de service, sa clientèle même. Donc, je pense que vous l'avez déjà bien fait, vous allez continuer à le faire dans le futur. Et Gabriel, j'aimerais terminer avec des petites questions personnelles. J'aime toujours savoir un peu si les gens qui viennent sur le podcast aiment la lecture d'affaires. Personnellement, je suis un amateur fini des bonnes lectures d'affaires. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu lis quelques livres business?
Oui, je lis des livres business. Dans la dernière année, j'ai peut-être moins lu de livres business. Je me suis plus attelé à des livres sur le Systems of Engineering Management. Donc, un que définitivement que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est An Elegant Puzzle par Will Larson. Pour vrai, tout ingénieur ayant une aspiration de voulant comprendre comment on gère une entreprise ou une équipe en croissance devrait s'y aller, définitivement. Au niveau des livres d'affaires, tu m'as parlé l'année dernière, j'ai été très, très... Je dirais peut-être nubilé, c'est peut-être trop fort, mais j'étais très intéressé par le sujet de disruptive innovation et le lien que ça a avec les business models. Donc ça, c'est toute l'œuvre de Clayton Christensen qui est résumée dans plusieurs de ses livres, mais qui était vraiment au centre de sa thèse. Donc, je pense un de ses livres, c'est The Innovator's Dilemma. Mais
ben oui.
Clayton Christensen, faut lire parce que justement dans cette idée que what got you here won't help you tomorrow. Il y a un peu de cette idée aussi à savoir poser les bonnes questions pour des fois, par exemple, repenser les modèles d'affaires. Parce que le modèle d'affaires en tant que tel qui nous a mis ici va peut-être pas être le bon modèle d'affaires, puis pas avoir peur de changer les tenants, que ça soit par exemple, comme tu l'as suggéré, de séparer deux entités ou bien de repenser des services comme on charge pour quelque chose. C'est super important. Je te dirais par contre que dans la dernière année, davantage, les livres qui m'ont beaucoup, je veux dire aider d'une certaine façon au niveau d'entrepreneuriat, c'est davantage des lectures qui sont plus au niveau de la science et de la philosophie, dans une certaine compréhension en fait de l'ingénierie sous l'œil, non pas nécessairement de la business, mais sous l'œil peut-être plus de la philosophie ou plutôt sous l'œil de le start-up en tant qu'idéologie, en tant que façon de voir le monde qui décrit et informe les décisions de tous les jours. Pour moi, j'ai suis allé chercher beaucoup à ce niveau-là. Puis, je pense à un livre que j'ai pas réussi à terminer, mais que j'ai déjà comme mis un chapitre, je relis le chapitre parce que c'est tellement plein d'informations. Je suggérais The Beginning of Infinity, Explanations That Transform the World par David Deutsch. C'est fabuleux. Puis, ce que j'aime le plus, sa thèse est un peu là. C'est-à-dire que pour lui, tout doit être explication, tout est vision, puis c'est important que ces explications-là soient utiles, falsifiables, et de façon à ce qu'on peut approcher le monde, puis le start-up, puis les thèses qu'on a, puis on a des thèses à propos du marché. Qu'est-ce que c'est un market fit, ou avant d'être un market fit, ben c'est une thèse. C'est-à-dire qu'on se dit que on a une explication raisonnable qui dit que tel service chargé de telle façon va être apprécié ou pas par les clients. C'est aussi une façon de une méthode de gestion avant d'être prouvé ou avant d'être établi. C'est une explication. Il y a à la base une explication qui dit pourquoi cette méthode va être meilleure. Il n'y a pas moyen de tester. Puis je pense que la pensée de David Deutsch est extrêmement matérielle pour les entrepreneurs.
Tu nous as parlé de lecture. Qu'en est-il de podcasts? Est-ce que tu en écoutes un peu?
J'écoute beaucoup d'audiobooks. Les podcasts, j'en aurais un que j'écouterais aussi. C'est pas techniquement un podcast. C'est un cours de traduction de la philosophie ou théorie en libre d'accès. C'est donné sur Instagram et YouTube par un dénommé Julian de Medeiros. J'adore. Pour moi, c'est une façon justement... ça a été une façon au début pour moi de rester allumé intellectuellement, mais en deuxième lieu, ça a été davantage une porte ouverte vers différentes philosophies, justement certaines philosophies au niveau de l'idéologie, qui me permettent encore de mieux amener des changements et de prendre les bonnes décisions pour mon entreprise. Donc ça, c'est à voir. Disons que c'est plus make or break pour certains. Certains vont faire comme c'est beaucoup trop philosophique, mais bon. Moi, ça m'aide. Puis, tu sais, des vérités qui vont sembler un peu faciles, mais par exemple, savoir que c'est qu'en changeant la façon dont on se pense nous-mêmes, donc comme entreprise, c'est qu'en changeant comment on se pense, c'est-à-dire on est une entreprise à propos de ci, à propos de ça. Bref, l'essence même des pivots, qu'on peut vraiment changer le cours de l'entreprise. Donc, c'est des choses qui sont ancrées dans différents courants de philosophie, qui sont ancrées dans différentes façons d'approcher les problèmes. Puis pour moi, ben ça, c'est ce podcast ou ce cours en ligne qui est donné comme un podcast d'accès libre, définitivement matériel, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à ça. Sinon, je dirais Naval Ravikant, tous les longs épisodes de Naval à écouter et à réécouter. Je pense que c'est quelqu'un qui, dans le milieu des startups, est réfléchi, qui, j'ai pas envie de dire no bullshit parce que ça a une autre connotation, mais qui est très, il y a un côté très pragmatique, sans être réducteur et avec beaucoup d'ouverture et de liberté d'action dans ce qu'il parle. Donc, j'aime beaucoup Naval. Donc, dès qu'il sort quelque chose qui est plus que c'est des clips de 2 minutes, j'y vais.
Et je terminerai. Est-ce que tu as une routine spécifique avant, pendant et après le travail?
J'aimerais ça. Je suis un gars d'habitude, mais pas au niveau de la play routine. J'essaie de workout au moins 30 minutes par jour. Je dois avouer que j'y arrive pas toujours. Je dois avouer que des fois, je le fais plus tard. Donc, c'est pas toujours avant. Sinon, plus généralement, je pense que j'essaie de me connecter plutôt à des valeurs comme de me laisser de l'espace puis de me donner les outils nécessaires pour pouvoir réfléchir et penser. C'est vraiment quelque chose que je trouve qui n'est pas assez mis de l'avant dans l'entrepreneuriat. Et on rentre dans le mythe ici du busy businessman, du 60 heures par semaine. Ça, c'est un truc que j'aurais pu parler beaucoup, mais on focus souvent sur la quantité de travail qu'on fait quand on devrait plutôt focusser sur la qualité des décisions qu'on prend et des décisions qui sont extraordinaires. Donc, c'est-à-dire qu'on prend pas tous les jours, puis c'est ça qu'on fait comme entrepreneur, mais ça prend un investissement en temps qui est extraordinaire. Donc, on peut pas juste faire un pivot ou faire une bonne décision pour un bon mode de gestion sur un coin de table. Je pense qu'il faut se laisser le temps de penser, de réfléchir. Puis ça veut dire pas avoir son calendrier complet de meeting tout le long. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que... Je dirais pas que c'est une routine, mais j'essaie de limiter. J'essaie d'annuler des choses si je peux les annuler. J'essaie de repousser des choses. Puis, et je prends le temps que j'ai besoin pour faire les bonnes décisions. Ça, c'est vraiment les deux choses. Ça, puis le workout. Les workouts, ça, c'est nécessaire pour rester sain un peu.
Gabriel, avant de te laisser filer, comment les gens peuvent en apprendre plus sur Wavo? Est-ce que peut-être vous avez des postes ouverts? Peut-être que des gens qui sont dans l'industrie musicale également qui aimeraient en savoir plus. Comment on fait pour en apprendre plus sur votre entreprise?
Vous pouvez aller sur notre site web, donc au wavo.me, donc wavo.me. Tout est là, d'avoir avoir des liens vers les postes qui sont ouverts. Si les gens ont des questions, Ils peuvent aussi nous rejoindre via le site. Puis sinon, moi-même, sur Twitter, j'ai l'espérance sur Twitter, donc vous devez me trouver. Ou Gab l'Espérance.
Gab l'Espérance. On mettra le bon lien dans les notes de l'épisode. Gabriel l'Espérance, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Histoire fascinante, celle de Wavo. L'industrie musicale, c'est un domaine qui est tellement inspirant. Félicitations pour la belle croissance que vous avez été capable d'avoir au cours des dernières années. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Quelle incroyable entreprise, celle de Wavo. Œuvrer dans le domaine musical est quelque chose qui, de l'externe, me paraît tout à fait incroyable. On peut sentir que les gens chez Wavo carburent à la musique et à la croissance. Bref, félicitations à l'équipe de Gabriel. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.